En marge du Festival immersif de culture et d'art scandinave et nordique FICAS qui s'est tenu à Montréal du 7 au 13 mars dernier, les artistes Marie-Samuel Levasseur et Maud Levasseur ont exposé le banquet des plats perdus du Nord. Durant la fin de semaine des 8 et 9 mars dernier, les deux artistes étaient au musée McCord pour présenter leur œuvre immersive.
Alors moi, c'est Maud Levasseur.
Moi, c'est Marie-Samuel Levasseur.
Donc, on est Place Courage. On est un duo d'artistes qui travaillons à partir la vérité et dans une optique de justice, de convivialité. Voilà. Et on présente aujourd'hui le banquet des plats perdus du Nord.
Moi, mais Maud et moi, on est deux sœurs. et on est toutes deux artistes de différentes disciplines. Moi, je suis vraiment plus artiste en art visuel et médiatique, aussi en micro-édition. Et Maud, elle, est plutôt une artiste qui vient du textile et aussi de l'art communautaire et du monde du théâtre aussi. Et donc, on a décidé de commencer à travailler ensemble dans des projets qui sont vraiment de co-création et d'art participatif. Donc, ça fait un peu plus d'un an maintenant que Place Courage existe. Et le Banquet des plats perdus, c'est comme notre premier projet là, sur lequel on travaille depuis un an ensemble.
L'œuvre présentée pour FICAS au musée McCord est en fait la deuxième version du Banquet des plats perdus.
La première version, itération des plats perdus, était au Monument national. Alors, on a commencé par se poser des questions sur qui était autour. On a voulu travailler avec les familles de quartiers chinois et aussi avec des gens donc, de Montréal, des alentours. On pensait, nous, surtout à tous ces restaurants qu'on a perdus pendant la pandémie, des plats que nous, parce qu'on a été élevés avec nos grands-parents, on ne mange pas. Mais en récoltant les histoires, on s'est vite aperçu de tout ce que ça couvrait comme terrain, c'est-à-dire de tous les deuils qu'on a à faire qui ont rapport avec la nourriture et d'à quel point la nourriture est aussi un bon espace pour partager ce type de deuil-là. Donc, biodiversité, migration, des gens qui ont des maladies qui ne peuvent plus manger, des allergies, qui se font interdire le gluten, qui deviennent véganes, peu importe. Mais tout d'un coup, tous ces gens-là se sont retrouvés à la même table. Et c'est ça qu'on trouvait intéressant. Et ça, c'était la première itération.
Quand on a présenté la première table, Christelle Durand, directrice artistique du Festival FICAS, il nous a approchés parce que, Maud et moi, on a quand même des contacts avec les communautés autochtones Innus et Inuits au Québec. Il y avait des histoires aussi, c'est ça justement qui commençait à nous amener vers des questions justement sur la biodiversité, les ingrédients au Québec qui sont peut-être en voie de disparition ou en danger. Et c'est comme ça, en fait, ça a fait un peu boule de neige assez rapidement, puis on s'est lancé dans l'aventure de vraiment axer sur une table, un banquet qui serait pour les questions du Nord.
Christelle Durand, fondatrice et directrice artistique du Festival FICAS.
Comme notre rôle aussi, c'est de montrer le corpus artistique de Montréalais qui sont inspirés par le Nord aussi. Donc, j'ai rencontré Maud et Marie du collectif Place Courage. Et quand elles m'ont parlé de leur projet de plats perdus, donc de banquet des plats perdus, j'aurais dit, il faut qu'on en fasse un pour FICAS, il faut qu'on en fasse un sur le Nord. Et donc, en un an, ben, on a travaillé fort, mais ça existe.
Pour réaliser la version nordique du banquet des plats perdus, les artistes ont obtenu le soutien du Conseil des arts de Montréal pour la création, ainsi qu'une bourse de déplacement du Conseil des arts et des lettres du Québec. Elles ont ainsi réalisé une tournée en Finlande, en Suède et en Norvège pour rencontrer différentes personnes et récolter des témoignages.
Donc, c'est des pays où on n'était jamais allé, mais ça nous a permis aussi de comprendre la nordicité de Montréal et du Québec. Pendant qu'on était là-bas, il y avait plus de neige à Montréal que dans les pays scandinaves. Donc, il y a aussi dans l'exposition l'idée de qu'est-ce que le Nord, tu sais. Et nous, on a décidé un peu de choisir que c'est quiconque appelle le Nord sa maison, donc était bienvenu à participer puis à partager des histoires.
Il y a des histoires un peu surprenantes. Ça, on a rencontré la personne qui nous a accueillis à Bergen, en Norvège. C'est un ami d'enfance de notre père. Nous, on ne savait pas que notre père avait un ami norvégien, mais ça a été vraiment important pour nous dans notre périple. Oyvind et sa femme nous ont amenés au fjord. C'est comme ça qu'on les a rencontrés. En Finlande, on a à Turku, on s'est aperçu que il y a un art house, il y a un centre d'art. En fait, c'est la ville qui a décidé que d'installer plusieurs galéristes là. Et eux, quand nous on est arrivés, tout le monde savait qu'on arrivait. Tout le monde dans Turku était comme les deux artistes de Montréal. T'sais. Et donc, ça a créé un lien avec la ville en tant que telle pour nous. T'sais. Tout d'un coup, on était comme, OK, là, on a des histoires de cette ville-là sur la table, très précisément, parce que les gens se sont sentis partie de quelque chose aussi.
Pendant leur processus, les artistes ont développé différentes façons de faire contribuer les participants à leur table.
Donc, il y a certaines personnes pour qui un formulaire en ligne était plus simple, moins intimidant, mais d'autres personnes qui avaient juste envie d'aller prendre un café, parler de souvenirs, puis après ça, nous, on digérait cette information-là pour la rendre sur la table. Je dirais que chaque personne avec qui on a connecté pendant notre voyage, ou même aussi au Québec et à Montréal, a eu une façon différente de contribuer. Là. Donc, c'est pour ça aussi que l'aspect pluridisciplinaire de la table, là, où des fois, c'est des vidéos, des fois, c'est de l'audio, des dessins, des écrits. Ouais.
Et certaines histoires ont particulièrement marqué les artistes.
Quand je pense à la vidéo, il y a une des vidéos où c'est un livre de recettes de Anne, une personne qu'on a rencontrée à Helsinki, qui avait le livre de recettes donc, de sa grand-mère, qui a numérisé, qui nous l'a envoyé. Mais quand je pense à ces recettes-là, je pense à Anne, tu sais, puis à notre rencontre avec elle.
Je pense que moi, c'est le rapport aux animaux. Qu'on a dans le Nord qui m'a vraiment frappée dans cette édition-ci, c'est-à-dire de parler avec des Inuits qui nous parlent du caribou, puis après ça, de rencontrer des Samis qui nous parlent du même animal, mais dans un rapport complètement différent, parce qu'eux, ils en ont des troupeaux. En fait, ils migrent avec les troupeaux.
On a aussi vécu des situations, tu sais, incroyable, où on se retrouvait en plein milieu d'une forêt en Suède avec des danseurs en danse contemporaine à goûter des petites racines. T'sais. Donc, c'est vraiment ancré dans l'expérience. Puis c'est pour ça aussi, je pense que c'est intéressant que Maud et moi, on soit là, présentes dans l'exposition pour discuter avec les gens aussi, trouver la manière avec eux, comment ils veulent déposer leur histoire dans la table, comment ils la reçoivent.
Là. Bonjour. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Ben, écoutez, on peut peut-être regarder, voilà, et comme ça, vous pouvez me présenter la mise en forme, tout ça.
Alors, oui, mais ce qu'on voit en ce moment sur la table, qui est à peu près de 30 pieds de long, et au bout de la table, il y a un écran qui diffuse une vidéo d'un, on pourrait dire, un plat perdu. C'est une table recouverte de graines de tournesol, puis les petits oiseaux, là, dans un décor de forêt d'hiver, viennent manger des petites graines.
D'ailleurs, on entend le bruit des oiseaux en fond.
Exactement, c'est le fond musical de l'exposition.
Les tables sont un peu en sections. On a quand même essayé de respecter des sections d'histoire. Alors, on a comme les poissons au départ, la moisson, ensuite les grands-parents, grand-père, grand-mère, et la chasse et au bout. Et un moment au bout, vous pouvez vous-même laisser des histoires. Les enfants peuvent dessiner aussi. Voilà. Il y a des histoires en vidéo. Ici, c'est un extrait d'un film de Samuel Lagacé sur la chasse aux morses chez les Inuits.
Et donc, Maud et moi, on a travaillé vraiment à rendre les histoires sous différentes formes, trouver le moyen de leur rendre hommage. Donc, il y a certaines histoires qui sont dans des petites enveloppes, comme des cartes postales.
Ici, on a une histoire sur les lamproies. Donc, les lamproies, ces démons aquatiques suceurs de sang qui ressemblent à un cauchemar, étaient tellement chéris par l'aristocratie britannique médiévale que certains entretenaient des étangs spécialement destinés à leur élevage. Paraît-il que le roi Henri Ier est mort d'avoir mangé trop de lamproies.
Certaines histoires ont été brodées à la main par Maud sur des serviettes de table. On a imprimé aussi des nappes avec des histoires et des dessins.
Oui, en effet, on voit des empreintes d'animaux, c'est ça, ici?
Oui.
Comme on dirait presque des fresques un peu, je ne sais pas, préhistoriques, ce genre de choses. Oui, là aussi, ici, on voit un lapin, on voit... là, c'est la migration, c'est ça, des caribous, ouais, c'est ça.
Et je suis devant une assiette sur laquelle on parle du melon de Montréal. Il est écrit « Plusieurs doutes que le melon de Montréal cultivé actuellement soit réellement le même que celui du siècle dernier ».
On a été bien accueillis par la coop Îlot des Carrières, où on est allé faire donc de la vaisselle en céramique. Puis on a dessiné en fait des éléments aussi issus des histoires dans les assiettes, dans des petits bols. Donc ici, Maude nous montre le Blotkos, qui est une histoire, un plat perdu, mais peut-être heureusement perdu, où c'est une famille de fermiers en Norvège qui avait pour habitude, pour ne pas gaspiller le sang des cochons, d'en faire des gaufres. Okay. Donc, des gaufres au sang. Alors, ça fait partie des histoires. Il y a certaines histoires qui sont, je dirais qu'il y a une vingtaine d'histoires où c'est des plats perdus avec bonheur. Les gens mm-hmm. sont heureux de l'avoir perdu.
Mm-hmm. Oui, il y a quelqu'un qui est très contente d'avoir perdu une tarte de pommes de terre comme fade de son ancienne belle-mère. Elle dit qu'elle ne s'ennuie ni de son ex, ni de ce plat.
ça donne ça aussi, ce genre d'histoire.
On a aussi un plat perdu de la ville de Turku en Finlande, donc qui est écrit en partie en finlandais. Le plat appelé paramatsi me manque beaucoup. La tante de ma mère, à Martila, le préparait toujours. Il s'agit d'une tarte savoureuse, remplie de viande hachée, frite sur un poêle à bois et servie avec beaucoup de beurre fondu. Chaque fois que nous rendons visite à la tante de ma mère, j'espérais ardemment qu'elle nous servirait. C'était presque toujours le cas.
Et donc on voit aussi donc dans des enveloppes ici c'est comme des un peu des c'est pas des recettes mais ça ressemble un peu on dirait le format mmh.
Vous voyez les histoires dans les enveloppes il y en a à peu près entre 150 et 200 certaines nous viennent de formulaires en ligne certaines viennent de la première table aussi où les gens avaient pu participer puis déposer leurs histoires et les autres c'est des retranscriptions ouais, qu'on a fait et parfois c'est drôle parce qu'on nous parle souvent de plats perdus puis on nous met les ingrédients ou la recette, mais on nous dit que même si on tente de la faire, ça ne goûtera pas pareil, comme quand c'était la grand-mère qui le faisait. Donc, il y a quand même des recettes aussi qui sont là présentes.
Rodrigue visite l'exposition avec sa conjointe et leurs enfants. La notion de plat perdu, pour les visiteurs français d'origine camerounaise, n'est pas inconnue.
Bon, donc moi, je suis africain, donc il y a beaucoup de plats que maman me faisait, qu'aujourd'hui, même en essayant de le reproduire, j'ai du mal à le faire, parce que oui, ça, c'est forcément perdu. Mais j'ai quand même la chance qu'elle est encore vivante, donc je peux encore, quand je vais en France, les manger. Mais oui, il y a beaucoup, beaucoup de plats. Rien que parfois, en se baladant, on peut sentir une odeur qui nous rappelle un plat. Donc ça, c'est vraiment... c'est un truc que je voudrais... il faudrait que j'apprenne à les faire, ou alors que je trouve un moyen de faire goûter ça à mon petit garçon qui a 3 ans. Donc, lui, quelque part, pour essayer de ne pas les perdre, il faut quand même essayer de trouver un moyen de continuer à perpétuer, on va dire, la culture.
En plus des histoires qu'elles ont récoltées, les artistes ont agrémenté leur œuvre d'objets de décoration pour en faire une vraie table de banquet.
Et on voit aussi des moules oui. ici, des petits emporte-pièces mm-hmm. aussi. Tout ça, vous les avez trouvés, on vous les a donnés ou vous les avez trouvés dans des antiquaires ou...
C'est beaucoup des choses que moi j'ai à la maison. Le moule à pain, c'était le moule à pain de ma grand-mère. Le petit cœur, c'était un moule que ma coloc avait de la sienne de grand-mère. Et je ne sais même pas d'où viennent les petits personnages, tellement ça fait longtemps que je les ai. Mais il y a beaucoup de vaisselle qui est aussi de la vaisselle de chez nous, parce que j'aime beaucoup en collectionner. Puis comme on était très proche de nos grands-parents, il y a des choses qu'on a gardées.
Et puis aussi ça c'est des est-ce que c'est des vrais c'est des faux des faux une fausse brioche non un faux pain ouais que vous avez fait comme une œuvre d'art finalement.
Ben, il y a certains éléments qui sont où on a trouvé des éléments des accessoires de théâtre là, pour raconter certaines histoires là on a un bel assortiment de faux champignons là vraiment mignons sur la table. Puis on voit ici un assemblement de fausses baies, d'où sortent des écouteurs où on peut entendre une chanson là, sur les baies enregistrée par Étienne Thibault.
Et si les artistes se sont servis de matériel vidéo existant, elles ont aussi écrit, tourné et monté certaines vidéos spécialement pour l'œuvre.
Ça, c'est le livre de recettes de grand-mère de Anne dont Marie oui. parlait tout à l'heure, avec une comptine qui joue, qui est une comptine en finlandais sur une coccinelle qui se sauve. Qu'est-ce qu'elle fait?
Elle cherche la nourriture.
Elle cherche la nourriture, évidemment.
Ouais. Voilà. Ça, c'est un bel exemple. Anne, elle m'a donné la numérisation du livre, puis je lui ai dit « Est-ce que tu serais partante de me chanter une petite chanson en finlandais? On pourrait l'intégrer. » Fait qu'on a vraiment collaboré ensemble là, pour faire cette vidéo-là, pour rendre hommage à sa grand-mère. Là.
Je vois aussi que la dernière section de la table, on vous l'avait dit, les personnes peuvent rajouter leur histoire. Donc, elles peuvent écrire, c'est ça. Donc, vous invitez les visiteurs à le faire pour bonifier une prochaine table, c'est ça?
Oui, entre autres, mais aussi pour leur plaisir à eux de pouvoir partager les histoires. Parce que on sait qu'il y a certains moments où les gens s'assoient à la table et se mettent à se parler entre eux. Puis, je pense que les gens n'ont pas beaucoup souvent d'espace pour partager ce type des souvenirs ou des ce genre de... Oui. D'éléments biographiques là, donc
les premières personnes qui sont entrées dans l'exposition ce matin, c'est une dame puis son amie, puis elles sont restées presque une heure à juste parler, échanger, puis parler de souvenirs qu'elles ont autour de la nourriture. Puis c'était super intéressant. À la fin, les deux ont pleuré. Formidable. Oui. Formidable. Tout de suite à 10h le matin.
Benoît, visiteur de l'exposition.
J'étais plutôt dans une posture de découverte, donc j'étais moins en train de réfléchir à mes propres plats, ma cuisine traditionnelle. Peut-être parce que justement, j'ai moins de plaisir à cuisiner les plats traditionnels de ma famille que de découvrir de nouveaux plats. Et donc ça s'est transposé dans mon expérience de l'œuvre, de l'installation. Je pense que ce qui est mis de l'avant dans l'œuvre de façon vraiment réussie, c'est le caractère culturel de la nourriture. Le fait qu'on se raconte quand on raconte ce qu'on aime manger, ce qu'on aime cuisiner. C'est une occasion de partager aussi les différences culturelles de manière à susciter l'intérêt et la curiosité.
Et même si l'exposition est terminée, les deux artistes comptent bien continuer à faire vivre le travail qu'elles ont réalisé autour du banquet des plats perdus.
On a différents projets là, pour la suite, c'est sûr, de l'exposition. Entre autres, avec FICAS, on travaille sur peut-être une possibilité de faire une tournée dans les CHSLD au Québec, à Montréal. Mais nous, c'est sûr qu'on a un peu le rêve depuis plusieurs mois là, de créer quelque chose qui serait pourrait rapatrier toutes les histoires en ligne, une plateforme que tout le monde pourrait consulter aussi dans les différents pays nordiques. Fait que ça, c'est un peu un rêve qu'on a. Après, c'est de voir... comment ça peut se concrétiser, avoir les subventions ou les sous pour pouvoir le faire, là. Mais oui, puis c'est quelque chose qui intéresse beaucoup aussi les chercheurs qu'on connaît qui sont dans le domaine de la nutrition, de la gériatrie, de la mémoire, puis tout ça, aimeraient avoir un point de chute pour toutes ces histoires-là.
Mm-hmm. Moi, je fais partie d'un groupe de recherche en économie, art et santé. Et on sait que l'art fait quelque chose. C'est difficile à mesurer avec exactitude, mais dans tout le rapport à la nourriture et la mémoire, ça, on a beaucoup de données quand même. Et donc, cette idée-là de se promener avec le banquet des plats perdus, puis de peut-être éveiller un peu partout une mémoire collective, ou du moins un deuil de mémoire collective ensemble, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup. Aussi, c'est sûr que là, après, c'est d'autres conversations là, qu'on aura, mais au-delà de ça, il faut voir qu'est-ce qu'on fait avec toute cette collection d'histoires, parce que ça devient un cursus de savoir particulier. Et là, comment on s'en sert, comment tout le monde consent à ce qu'on s'en serve, ça devient une question de chercheur.
Oui.
C'est très intime, tu sais. C'est comme une recherche qui n'était pas comme dans les livres. C'est vraiment des histoires simples aussi. Donc, c'est de se rappeler que le patrimoine est aussi une question de simplicité autour d'une table. Là.